Martine et Marinette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça c'est un bonjour qui va bien, merci d'être présente. Alors les semaines passent et les mois passent, on a des invités absolument extraordinaires et bien sûr l'invité de ce mois-ci est aussi extraordinaire. Bonjour Corinne Gallet.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Corinne Gallet, on va vous découvrir, on a 4 émissions, un mois pour vous découvrir. On va y aller donc doucement. Je vais quand même signaler deux choses. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes la directrice de Clé Vacances. On vous avait déjà reçu il y a 2 ans, Martine et Marinette, vous vous souvenez?
Oui,
on avait ça fait passe.
2 ou 3 émissions sur Clé Vacances.
Oui, oui.
Et puis, vous êtes aussi la maire d'un village qui s'appelle Aucun.
Absolument.
Dans le Val d'Azur.
Dans le Val d'Azur.
Au-dessus d'Argelès-Gazost, pour les gens qui nous écoutent un petit peu de loin et qui voudraient situer géographiquement. Voilà. Donc, vous avez, entre votre travail et la mairie d'Aucun, je pense, pas mal d'activités. On va découvrir, parce que le dénominateur commun de cette émission, c'est le changement de vie.
C'est ça.
C'est comment, aujourd'hui, il y a des gens qui s'étaient prédestinés à quelque chose et qui ont complètement changé de vie. Et vous, particulièrement, tout en restant quand même dans la même ligne, mais débutons par le commencement. BTS agricole. Alors, Corinne Gallet, vous êtes d'origine d'Ariège, vous êtes passée par Bordeaux avant d'arriver ici, et vous n'êtes pas du tout ici issu d'une famille agricole, hein.
Absolument.
Vous n'êtes pas né dans une ferme, ni voilà.
Pas du tout.
Et comment une jeune fille a envie de passer un BTS agricole? Racontez-nous.
Écoutez, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée exilée à Bordeaux, comme beaucoup d'Ariégeois à l'époque qui étaient partis chercher du travail ailleurs. Et puis, l'appel des montagnes, malgré tout, était là, demeuré, avec l'envie de revenir m'installer sur les Pyrénées. Alors, pas forcément l'Ariège. Et plutôt les Hautes-Pyrénées, je ne sais pas, une espèce d'attraction comme ça qui se faisait sur le département. Et donc voilà, j'ai intégré un cursus agricole avec l'espoir de pouvoir un jour acheter un troupeau, m'installer à montagne. Et puis, au lycée agricole, quand on n'est pas issu du milieu agricole, on nous dissuade très rapidement de prendre cette voie et d'essayer de s'installer où que ce soit.
Mmh. Alors, c'était quoi votre envie de devenir agricultrice, hein. C'était quoi quel style d'agriculture et où? Enfin, on a bien compris que c'était une agriculture de montagne, mais...
Oui, tout à fait. Non, c'était...
Qui n'est pas forcément celle qui ramène le plus d'argent.
Ah, oui, absolument. Mais bon, c'est dans ces rêves de jeunesse où on se dit on va partir à la montagne, vivre au grand air, vivre libre, avoir son troupeau en montagne. Et voilà, c'était simplement cette idée-là. À partir de là, j'ai intégré donc, le cursus agricole, MBTA agricole, effectivement.
Que tu as fait quand même.
Que j'ai fait.
Que tu as fait.
Oui, oui.
J'ai été
jusqu'au bout. J'ai découvert... alors, c'était déjà l'agriculture bio, puisque j'ai fait un stage en Dordogne chez un paysan absolument admirable et remarquable, qui était un homme de combat, de conviction, avec qui j'ai appris l'agriculture biologique et qui a commencé à m'expliquer que ce que j'avais appris au lycée agricole n'avait strictement aucun sens.
D'accord.
Et que les mauvaises herbes que j'avais dans mon superbe herbier étaient finalement des herbes indispensables à l'agriculture biologique.
D'accord.
Donc voilà, donc un démarrage un peu compliqué au niveau agricole. Mais donc du coup, malgré tout, j'ai persisté. J'avais vraiment l'envie de venir vivre dans les Pyrénées. Et puis parallèlement, j'avais une vie associative déjà très engagée depuis l'âge de 14 ans. J'étais engagée au niveau de la Fédération Léo Lagrange, où j'avais des activités bénévoles à l'époque. Et puis du coup, j'ai choisi la voie de la vie associative, socioculturelle, et donc j'ai intégré tout ce qui était animation enfant à l'époque.
Ah oui, alors là, on a changé quand même. À partir de quand vous avez changé? Quel était le déclic? C'est l'associatif qui fait que vous meniez en parallèle ces deux mondes, c'est-à-dire vos études et puis peut-être la mise en place de démarrer votre activité ?
Tout à fait, mais la vie associative, ça a été pour moi un révélateur. Quoi. Dans une adolescence en banlieue bordelaise, pas toujours facile, parce que l'adolescence, c'est jamais un moment facile. Donc j'ai pu approcher de très près cette vie associative qui a été vraiment très très porteuse.
Alors, elle se résumait à quoi cette vie associative ? Qu'est-ce que c'était concrètement ?
En fait, nous avions, dans le quartier où je vivais à l'époque, il y avait une maison des jeunes et de la culture, menée par Léo Lagrange, par la fédération. Et quand je suis arrivée pour participer à un atelier photo, je croyais qu'il y avait un atelier photo. Le directeur m'a dit, mais il n'y a pas d'atelier photo, mais bienvenue, on va le créer ensemble. Voilà. Et ça a été un peu un homme providentiel qui finalement nous a ouvert des portes. Nous, en tant que jeunes, on était 3-4 amis et on a créé cet atelier photo. On a démarré comme ça. Et puis on a mis en place une animation sur le fleurissement de la ville avec donc un travail collaboratif avec les aînés. Voilà, donc il y a eu plusieurs actions associatives qui se sont mises en place tout doucement. Aidé par ce directeur qui était un homme formidable. Et puis on finit par prendre goût. On prend goût à la vie publique, à la relation à l'autre, au partage, à l'échange, au lien social. Et puis je crois que c'est un truc qui finalement ne nous quitte pas, quoi. Quand on est tombé dedans.
Cet atelier photo, dans le 9 du, il y a un révélateur. Et là, je crois que complètement. Le révélateur a complètement été...
C'est complètement ça, ouais. Et donc moi, j'ai poursuivi dans la vie associative. Et puis en me rapprochant, alors là, bon... point de vue au niveau du travail, quoi, de trouver un métier qui correspondait à la fois à cette vie-là et à mes envies du moment. Donc je me suis tournée vers l'animation socioculturelle à destination des jeunes, en centre de loisirs, en classe de découverte, en accompagnement. Voilà, donc j'ai poursuivi là-dessus.
Et là, donc, l'agriculture, ça nous a... Vous avez arrêté, là.
Donc, je l'avais un peu laissé de côté, effectivement. J'avais laissé tout ça de côté. Et puis, je vois un jour une petite annonce, le Parc National qui recherchait des hôtesses d'accueil pour les saisons d'été en direct aux entrées du parc. Donc, j'ai postulé. J'étais à l'époque en Dordogne sur une classe de la préhistoire. Et puis le Val d'Azun m'a téléphoné en me disant nous avons un poste à pourvoir, on a reçu votre candidature, on vous attend pour la sélection. Donc voilà, j'ai pris mon petit sac, je suis partie sur le Val d'Azun, je suis arrivée en Val d'Azun, donc à Reims-Marsous, où je n'ai pas été retenue sur le poste Parc National, mais en revanche j'ai rencontré à l'époque le directeur de l'office de tourisme, avec qui on a échangé de façon informelle sur le trottoir, et à qui j'ai proposé des animations autour du cerf-volant à installer sur le Val d'Azun, sur les animations touristiques.
Et on vous doit d'ailleurs une très belle manifestation sur le lac d'Estaing.
Tout à fait.
Eolo Tempo, oui.
Voilà, qui était le festival international de cerf-volant.
Énorme manifestation.
Qui est devenu une grosse machine, effectivement.
Mais comment les idées germent comme ça dans ta tête ?
Et pourquoi le cerf-volant ?
On est parti... Le cerf-volant s'est installé en Val d'Azun, c'était dans les années 90, donc c'était tout début 90, où j'ai commencé à faire des ateliers avec les enfants des touristes qui venaient faire un atelier fabrication cerf-volant. On allait faire voler nos cerf-volants.
Parce qu'il y a un ventilateur naturel dans cette vallée.
Et ce n'est pas une légende.
J'ai pu le constater, puisque au Val d'Azun, à une certaine heure, quand le soleil sort, il y a une différence entre le courant d'air chaud et d'air froid qui fait qu'il y a de l'air qui arrive. Et donc, on peut faire voler le cerf-volant.
Tout à fait. Il y a une aérologie
bien précise.
Voilà, il y a une aérologie tout à fait particulière.
C'est incroyable.
Avec le vent qui se lève, effectivement, une heure précise, comme si on avait appuyé sur le bouton.
Exactement. Comme si on avait un gros ventilateur qui s'était mis en route à une heure précise, alors que tout ça, bien sûr, est naturel.
Complètement.
Et que, on peut faire voler le cerf-volant comme sur le bord d'une plage, quoi.
Tout à fait. Donc l'idée est partie de là, à partir d'animation avec les enfants. Derrière, nous avons créé, avec donc des amis sur le Val d'Azun, nous avons créé le centre de loisirs du Val d'Azun, les Copains d'Abord.
Joli, non ?
Voilà. Et puis donc, dans le cadre des activités du centre de loisirs, ben, un jour, un petit éclair, comme dit Martine, comment vient l'idée ? L'idée, elle est venue comme ça. C'est vrai qu'on allait voler avec les enfants du centre de loisirs au lac d'Estaing. Et puis, il y avait toujours des gens qui venaient nous voir, qui avaient envie d'essayer, qui avaient envie de tester. Et on s'est dit, pourquoi pas une manifestation autour du cerf-volant et du vent au lac d'Estaing, qui est un site qui s'y prête merveilleusement. Quoi.
C'était sur un week-end, je crois, non ?
Oui, tout à fait. C'était deux jours de festival grand public. Mmh. Et puis après, c'est rajouté une journée scolaire.
Ouais.
Voilà, jusqu'à la dernière édition où nous avions 1500 enfants du département qui travaillaient sur un projet pédagogique à l'année sur le vent, l'aérologie en montagne. Et puis après, on a eu un projet qui s'appelait Ensemble allons plus haut. Donc, on a vu arriver des centres de personnes handicapées, IME, etc., qui sont venus également alors sur la région Midi-Pyrénées et qui venaient sur le festival. Donc, on a eu plus de 300 personnes à mobilité réduite avec différents handicaps qui sont venus pratiquer le cerf-volant, fabriquer leur cerf-volant et rencontrer le public du festival.
Le vent, on va s'arrêter là pour cette semaine. On vous retrouve, Corinne Gallet, dès la semaine prochaine. On continue à découvrir votre vie, votre échange. Je rappelle que vous êtes aussi le maire d'une commune. Alors bien sûr, en ce moment, les maires sont à l'honneur puisque les élections municipales s'approchent. Et donc, les maires sont à l'honneur. Vous êtes la maire d'Aucun. Vous êtes aujourd'hui la directrice d'une structure qui s'appelle Clé Vacances, qu'on avait reçue. Et je crois que c'est là où Martine, oui, et Marinette vous êtes, oui, connues, hein, à travers, puisque Martine et Marinette, vous aviez un gîte. Et vous étiez avec, oui, les vacances. Hein,
oui, oui, c'est ça. Oui.
Et je crois même que Martine, vous étiez au conseil d'administration de cette structure.
Oui, à l'époque, oui. Bon, je suis encore pour quelques mois présidente.
D'accord, voilà. Ah, carrément. Voilà. Donc j'ai la présidente et la directrice.
Et vous avez une présidente super active, super réactive qui mène l'association
Clé
Vacances.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à échanger. Et comment vous avez, on a un petit peu découvert votre séjour en Ariège, votre démarre en Ariège, puis ce BTS agricole, puis Léo Lagrange qui vous a été un révélateur pour vous, et votre arrivée donc grâce à deux annonces, une par le Parc National des Pyrénées et l'autre par l'Office du Tourisme du Val d'Azun. Donc vous êtes arrivé chez nous et on continue cette belle histoire la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.